Et puis on a l'honneur, le plaisir, la grande joie d'accueillir nos amis Parigo. Mathé et Alain Rindel sont là ce matin avec leur jeune invité du Honduras qui s'appelle, je ne sais plus, Tania. Bienvenue à toi. Bienvenue Mathé et Alain. Et c'est à Alain qu'on va laisser le micro maintenant pour entendre ce que Dieu a mis sur son cœur. Sois béni. Vraiment Alain, et merci beaucoup.
Tu as besoin d'un...
quelque chose pour poser mon machin, si c'est possible.
Ouais, très très bien.
Tu gardes le micro à la main, tu
oui.
Veux un papier,
la liberté des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin. On est très heureux aussi de nous tremper dans la... la région d'Alsace, qui est très très belle à nos yeux. Seigneur, libère-les du chauvinisme au nom de Jésus. C'est vrai que c'est une très très belle région et lorsque le soleil est là, c'est parfait. Hein. Alors vraiment, merci aussi à nos amis de Strasbourg hein, pour tout ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui. Mon cœur s'est réjoui dans la présence de Dieu et vous. Est-ce que vous êtes réjouis dans la présence du Seigneur? Alléluia. Alors, je n'ai pas les salutations de l'Église à vous apporter parce qu'il y a longtemps que je n'y suis pas allé. Donc, voilà. Mais je leur rapporterai les salutations quand je rentrerai. Hein. Donc, je n'ai pas dit que je faisais l'Église buissonnière, bien au contraire. Luc m'a demandé si je pouvais le remplacer. Et j'ai dit, mais c'est toujours avec plaisir que d'être ici à Guebwiller, à l'Église Josué. Alors, ce matin, nous allons voir ensemble... quelques petites choses qui vont nous aider, je crois, à grandir. En tout cas, je travaille pour ça, pour ma part, parce qu'on n'est jamais arrivé, bien sûr. On est en marche avec le Seigneur, et ce qu'on demande au Seigneur, c'est d'aller de progrès en progrès, afin que son nom soit glorifié. C'est lui qui reçoit toute la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Et nous voulons apprendre à entrer dans sa présence, mais nous voulons apprendre à toucher son cœur avec passion. Alléluia. Alors donc je me suis réjoui ce matin d'entendre les instruments, d'entendre les voix, de vous voir à l'œuvre en train de louer le Seigneur, mais on va aller plus loin dans sa présence ce matin. Nous voulons non seulement le toucher lui, mais nous voulons toucher notre génération, nous voulons toucher notre ville, nous voulons toucher notre région, nous voulons toucher notre pays de France. Amen. Et pour cela il faut que l'Église ait conscience qu'elle n'est pas simplement à être appelée à s'enfermer entre quatre murs, mais elle est appelée à sortir pour aller toucher ceux du dehors. Et nous bénissons le Seigneur de ce que vous avez l'intention de le faire. C'est tellement important de toucher le cœur de Dieu quand il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » comment ? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Matthieu 22, versets 37 à 40. On ne dit pas « toucher le cœur de Dieu, ce serait une bonne idée, ce serait une belle chose à faire. » Non, on ne dit pas cela. Simplement, c'est un désir que Dieu a de si important d'être touché, lui, en premier, par chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on ouvre notre Bible ensemble. Vous avez votre arme dans la main. Montrez-moi votre arme. Brandissez-la au-dessus de votre tête, cette arme. Parce que le diable n'aime pas ça. Quand on a sa Bible avec soi, le diable n'aime pas ça. Parce que dans la Bible, il y a la vérité. Alléluia! Il y a la lumière de Dieu. Oui, même qu'elle soit électronique ou pas, on peut brandir sa Bible. De toute manière, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. On a une femme high-tech au premier rang. Elle le fait bien valoir. Hein. Waouh! Janine, tu m'impressionnes. Hein. Alors, Cantique des Cantiques. Un chant d'amour pour Dieu. Amen. Cantique des Cantiques au chapitre 5. Et à partir du verset 2, nous lirons jusqu'au verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 5. Voici ce que nous lisons. Je pense que vous avez tous trouvé en appuyant sur le bouton ou en tournant les pages. Voilà, c'est bien. Alors, il est écrit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Alors si ton voisin s'endort et qu'il ronfle, tu lui donnes un coup de coude et il va te répondre, ou elle va te répondre, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça se passe aussi dans les couples. Il y en a un qui s'endort, il commence à ronfler. Et la personne qui est à côté lui donne un coup de coude. Mais tu étais en train de bien dormir là. Non, non, non. Non, non, j'étais endormi simplement. Ah oui, tu étais endormi, mais ton cœur veillait. On comprend bien. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Écoutez bien, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Et j'aimerais que ce matin, on dit amen à la parole de Dieu, j'aimerais ce matin que l'on puisse tirer quelques enseignements de ce que nous avons lu il y a quelques instants. Donc il y a une rencontre passionnée que le bien-aimé veut avoir avec sa bien-aimée. Et ça, c'est un appel passionné qui va demander une réponse passionnée. Amen. Et nous sommes là dans la maison de Dieu ce matin. Et c'est vrai que parfois, dans l'église, on peut dire que chacun de nous, nous sommes endormis, mais notre cœur est en train de veiller. J'espère que vous n'attendez pas un événement extraordinaire qui va faire que vous allez commencer à vous lever parce que cet élément est venu. Je crois que nous devons être à 100%, même plus que cela, pour le Seigneur. À tout moment de la journée, à tout moment de la semaine, à tout moment de l'année, nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur nous appelle à entrer dans sa présence, quelle que soit la chose que nous sommes en train de faire. Il nous dit, viens ma bien-aimée en tant qu'église, viens mon ami IE, viens dans ma présence, j'ai besoin d'entendre ton cœur. J'ai besoin d'entendre tes soupirs. J'ai besoin de te connaître encore davantage. Et je crois que le Seigneur veut nous appeler, non pas à un réveil qui va nous tomber dessus comme cela, mais à un réveil du cœur. Alléluia. Le réveil que nous attendons, un réveil magique, cosmique, où il y a des gens qui tombent, où il y a des paillettes d'or, etc. Dieu attend de nous un cœur qui veut l'adorer, qui veut le rencontrer et qui veut lui dire tout pour lui. C'est ce que le Seigneur attend. Il attend que nous l'adorions. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et je voudrais vous faire remarquer que l'initiative ne vient pas de l'Église. L'initiative ne vient pas de toi. L'initiative vient de lui. Vous avez lu dans la parole de Dieu, je frappe à la porte de ton cœur. Je veux entrer chez toi. Je veux souper avec toi et toi avec moi. C'est lui qui frappe. Il est dit dans la parole de Dieu, si quelqu'un est fatigué et chargé, venez à lui, viens à moi, dit le Seigneur, et je te donnerai du repos. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait le premier pas dans ta vie lorsqu'il t'a sauvé? Est-ce que ce n'est pas lui qui s'est présenté à toi avec sa parole, avec cette idée que le péché t'entraîne vers la mort, mais que grâce à son sang qui a coulé, tu es revêtu de la justice de Dieu. Alléluia. Dieu nous dit, je t'appelle. Je t'appelle par ton nom. Viens dans ma présence, c'est une invitation. Alors, elle va dire cette sulamite, mais j'ai les pieds qui sont propres, comment vais-je faire? Et souvent, quand Dieu voit ça, souvent il fait quelque chose de neuf. Il s'est passé quelque chose, il a passé la main par la fenêtre pour être vu, et ça c'est un signe. Et Dieu veut envoyer des signes dans notre Église, qui est son corps dont lui est la tête. Et bien souvent dans l'Église, il y en a qui dorment, mais leur cœur est en train de veiller. Donc, comment peut-il faire? Comment allons-nous faire? Ces gens qui dormaient, leur cœur veillait, ils se réveillent au moment où Dieu veut faire pression sur eux. Alors, peu importe ce qui compte, ce n'est pas tout cela. Ce qui compte, c'est d'entrer dans sa promesse. On peut lire peut-être un panneau ici dans la région de Guebwiller, Paris 500 km. Mais si tu vois sur une bande qui a marqué Paris 500 km et que tu t'assois sur ta bande, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux aller à Paris. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait une action. Il faut que tu fasses quelque chose pour y aller. Est-ce que tu crois que simplement tu vois une borne Paris 500 km, ça te suffit pour aller à Paris? Non, il va falloir que tu prennes des moyens pour t'y rendre. Il faut que tu fasses quelque chose. Et ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est une réponse qui nous amène à bouger, une réponse active. On commence à avoir les entrailles touchées, on répond à Dieu et on lui dit... Eh bien, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, verset 5, la première partie. Ça demande une action, ça demande une réponse active. Amen. Et Dieu veut cela de chacun d'entre nous. Alors il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors comment faire cela? Laissez-moi vous dire une chose, chacun et chacune d'entre nous, nous avons des verrous. Et ce matin, il en a été question par nos amis de Strasbourg. Ils l'ont souligné ce matin en tout cas. Seigneur, fais sauter les verrous qui nous empêchent d'aller vers toi pour répandre le parfum qui contient notre cœur pour toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mises dans notre cœur, beaucoup de trésors que Dieu a mis dans notre cœur. Vous avez vu, le parfum, la myrrhe, la myrrhe, c'est le parfum de l'amour. Et donc, je suis allé jusqu'à la porte, dira la Sulamite, et mes doigts se sont arrêtés jusqu'où? Jusqu'au verrou. Il y a des verrous dans nos vies qui nous empêchent d'aller plus loin dans l'adoration, dans la louange pour Dieu, dans l'exaltation de son nom. Et je crois que le Seigneur, dans les jours qui viennent, et même aujourd'hui, il veut commencer une œuvre qu'il rendra parfaite. Dieu veut faire sauter les verrous qui nous empêchent d'aller dans sa présence. Alors tu peux dire peut-être, mais Seigneur, ce matin, je suis ici dans ce culte. Comment répondre de façon à toucher le cœur de Dieu? Quand je touche le cœur de Dieu avec passion, c'est quand moi je réponds de tout mon cœur. Elle a eu du mal à se déplacer, cette Sulamite. Elle était couchée, elle était habillée, elle était propre, elle s'était lavé les pieds, elle s'était lavée entièrement. Et donc, elle ne voulait pas se salir les pieds. Elle ne voulait pas aller vers cette porte. Et pourtant, le bien-aimé l'attendait. Et pourtant, le bien-aimé voulait se montrer à elle. Alors ce matin, peut-être tu dis, mais Seigneur, je suis dans ce lieu. Mais moi, je veux autre chose que cela. Mais Seigneur, j'ai levé mes mains ce matin, c'est bien. Seigneur, j'ai chanté ce matin, c'est bien, tu as chanté. On va voir cela en détail tout à l'heure. Mais ce que le Seigneur attend, c'est notre cœur tout entier pour lui. Il attend que nous lui donnions tout. Il attend que nous exposions tout ce que nous avons reçu, parce que le Seigneur veut répondre à cela. Alors quand je réponds tout mon cœur, je touche le cœur de Dieu avec passion. Souvent on entend la chose suivante dans nos réunions. Ah, ce matin, on a eu un bon culte. J'ai senti la présence de... Allez-y. J'aime bien quand l'auditoire participe, hein. J'espère que vous n'êtes pas là comme des spectateurs. J'aime bien quand vous êtes d'accord, vous le dites. Ouais, amen, ouais, j'aime bien entendre cela. Ce matin, on a eu un bon culte, j'ai senti la présence de Dieu. Mais Dieu va dire, non, non, je ne veux pas simplement que tu sentes. Moi, je veux sentir la présence de l'humain, signé Dieu. Et vu de notre côté, un bon culte, c'est sentir la présence de Dieu. Mais est-ce que nous nous sommes déjà demandé, pour Dieu, c'est quoi un bon culte? Est-ce que nous sommes venus pour nous-mêmes ce matin? Est-ce que nous sommes venus pour lui demander une guérison? Est-ce que nous sommes venus simplement pour que Dieu touche un problème de notre vie? Que Dieu nous débarrasse de telle ou telle mauvaise habitude? C'est vrai qu'il veut le faire. C'est vrai que tout est possible dans sa présence. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est ressentir notre présence. C'est ressentir notre cœur. Et le culte, on ne le fait pas pour nous, on le fait à lui. On va se rendre au culte, un culte les uns pour les autres. On va chanter des chants romantiques les uns pour les autres, mais il y a une part relationnelle, c'est vrai, dans un culte. Mais le culte, d'un bout à l'autre, il est pour lui. Ce matin, je suis venu pour Jésus. Je suis venu pour magnifier son nom. Je suis venu dans sa présence pour le glorifier. Je suis venu pour lui dire que je l'aime. Est-ce que ce matin, tu lui as dit, Seigneur, je t'aime? Si tu ne l'as pas dit, il faut que tu le dises maintenant. Tu ne peux pas repartir sans lui dire, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, je t'aime. J'aimerais t'en entendre dire ce matin au moins une fois. On va le dire tous ensemble. Je ne vais pas compter jusqu'à trois. Seigneur, je t'aime. Bon, il y en a qui l'ont dit avec passion, il y en a d'autres qui ont dit, Seigneur, je t'aime. Bon, c'est bien, mais maintenant tu vas le dire avec ton cœur. Je suppose qu'un fiancé, quand il dit à sa fiancée, je t'aime, il y a des choses qui se voient dans ses yeux. Il y a une passion qui est là. Est-ce que tu es passionné pour le roi des rois? Seigneur, je t'aime.
Seigneur, je t'aime.
Il n'y en a qu'une qui suit, hein?
Seigneur, je t'aime.
Voilà. On va recommencer pour ici parce que vous n'étiez pas. Seigneur, je t'aime. Yes. Seigneur, je t'aime. Est-ce que Dieu peut dire ce matin, j'ai eu un bon culte, j'ai goûté la présence des humains, ils étaient là pleinement pour moi. C'est pourquoi de temps en temps, se mettre dans la pensée de Dieu peut nous aider à comprendre ce qu'il désire de chacun d'entre nous. L'Écriture nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors dans Genèse chapitre 3, on lit un passage au verset 8 et 9. Alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Un soir, l'Éternel n'arrivait plus à sentir la présence de l'homme. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Vous allez dire, mais moi je ne comprends pas ce passage, Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Comment dit-il, où es-tu ? Est-ce que nous avons compris que lorsque l'homme a péché, il a été séparé de Dieu, son esprit n'était plus en communion avec l'esprit de Dieu ? Et lorsque Dieu dit, où es-tu ? Il savait où physiquement il était, mais il ne reconnaissait plus la présence de son esprit. Et lui dira, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Et peut-être ce matin, le Seigneur vient nous poser la question, où es-tu ? Où es-tu, mon frère ? Où es-tu, ma sœur ? Ben Seigneur, voilà, je suis là, je chante. Non, je ne parle pas de cela. Où es-tu ? Eh bien, Seigneur, je suis dans l'église, tu le vois bien. Non, je ne parle pas de ta présence physique. Où es-tu ? Est-ce que je peux sentir la présence de l'humain ? Est-ce que je peux sentir ta présence dans cette église ? Où est ton cœur? Où sont tes entrailles? Où es-tu, s'il te plaît? Je veux chercher ta présence. Je cherche un homme, je cherche une femme, dit la parole de Dieu, qui se tienne à la brèche et qui prie et qui entre dans ma présence. Dieu cherche des humains. Où es-tu? Le psaume 14, verset 2 nous dit, Éternel, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Où es-tu? Et j'aimerais vous lire un texte que tiré de... Vous avez connu cet artiste, cet humoriste, Raymond Devos. Je ne sais pas si vous l'avez aimé. Il est super cet homme. Moi, j'aime beaucoup ses écrits. Et un jour, à mon anniversaire, Mathé, parmi ce qu'elle m'avait offert, m'a offert un gros bouquin avec la plupart de ses écrits. Et parmi ses écrits, il y en a un qui vraiment me retient mon attention. Il a écrit, j'ai lu quelque part, Dieu existe. Et je l'ai rencontré. Donc, je ne vais pas imiter sa voix. Je ne vais pas non plus l'imiter corporellement. Il était... Bon. Ça, alors, ça m'étonne. Que Dieu existe, la question ne se pose pas. Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi, voilà qui me surprend. Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui. Dans un petit village de Lozère, abandonné des hommes, il n'y avait plus personne. Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré. Et là, j'ai été ébloui par une lumière intense, insoutenable. C'était Dieu. Dieu en personne. Dieu qui priait. Je me suis dit, mais qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même, pas lui, pas Dieu. Non, il priait l'homme. Il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Et il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. Mais j'ai dit, mon Dieu, je suis là. Il dit, un miracle, une apparition humaine. Mais je lui ai dit, mais mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé ? Il m'a dit, oui, mais il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu à l'église que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. Je lui ai dit, vous voilà rassuré, mon Dieu. Il m'a dit, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré. Même si c'est tourné en humour, il y a une part de vrai là-dedans. Quand le Seigneur parcourt la terre du regard, il dit, où es-tu ? Je veux sentir ta présence, je veux sentir ton cœur. Et mes amis, j'ai envie de vous dire ceci, même si ça dure 15 minutes seulement, même si ça dure 3 minutes dans le culte, j'irai plus loin, même si c'est 3 secondes de réel contact avec Dieu, avec ton cœur, Dieu pourra dire, j'ai rencontré le cœur de l'homme et ça me satisfait. Dieu veut toucher notre cœur, mais Dieu veut recevoir de notre cœur le parfum qui lui est dû. Et ce matin, je voudrais tellement que nous ouvrions nos yeux sur cette réalité. Les cultes, ce n'est pas pour nous. C'est en l'honneur de l'Éternel. C'est pour chercher sa face. C'était un bon culte. J'ai senti sa présence. Alors, celui à qui on pardonne peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Un jour, il y a un homme qui se promène dans une église et il voit un vitrail. Et le soleil était en train de passer à travers ce vitrail. Et ce vitrail représentait Jésus mort en croix. Et sous ce vitrail, il était écrit « Voici ce que j'ai fait pour toi, mais toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et cet homme est reparti avec un véritable message dans son cœur. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour que nous nous levions pour lui, afin que lui soit glorifié sur la terre entière et afin que son nom soit connu de la terre entière. La Bible ne dit-elle pas que la gloire de Dieu couvrira la terre comme l'eau couvre le fond des mers? Et je crois que le Seigneur est en train de faire lever des lumières dans ce monde. Et ici, dans l'église de Guebwiller, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais Dieu veut que vous brilliez bien fort dans toute cette région alsacienne. Et c'est vrai que face à ces émotions qui ont été touchées, le mot émotion vient du latin movere, qui veut dire se mouvoir, ce qui veut dire ça me fait bouger. Il y a plein de gens qui ont dit surtout il ne faut pas s'approcher de Dieu avec nos émotions. Je regrette, mais Jésus a eu des émotions. Quand Lazare est mort, il a pleuré. Et lorsque il a entendu certaines choses, il a été attristé quand ses disciples lui disaient « Mais Seigneur, fais tomber le feu du ciel. » Il était indigné par cela. Jésus avait des émotions. Et on a besoin de laisser nos émotions être touchées et de regarder à la croix, de regarder tout ce que Christ a accompli à la croix du calvaire. C'est pour cela que David priait. Il priait dans le psaume 51. Il dira « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça veut dire « Je veux t'offrir la présence de mon être réel au moment où je te cherche. » La Bible nous dit que lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Et moi, je crois que c'est fort cela. Vous vous rendez compte que c'est fort. L'adoration, un attachement, Paul le compare à l'homme et la femme qui s'attachent dans une relation conjugale. Quand tu viens rencontrer Dieu, tu t'attaches à lui. Alléluia. Tu viens dans sa présence, mais tu t'accroches à lui, tu t'attaches à lui, et c'est extraordinaire. Et on lit dans la parole de Dieu, écoutez, dansez ou pleurez, mais réagissez. On vous a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On vous a chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Vous êtes restés là comme des objets. Où es-tu, Adam? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Touchez le cœur de Dieu avec passion. J'aimerais vous lire ce que Matt Redman disait dans l'un de ses chants. C'est le débordement, une âme pardonnée. Et maintenant, Seigneur, que nous t'avons vu, nos cœurs ne peuvent pas rester silencieux. Nous serons une génération qui danse à cause de ta grande miséricorde. À cause de ton grand pardon, nous serons une génération qui pousse des cris de joie, qui crie à cause de ta grande gloire, Seigneur. Le débordement d'une âme pardonnée, c'est ta miséricorde qui nous a appris à danser. Et laisse-moi te dire une chose. Il y a des jeunes aujourd'hui qui s'enferment dans des salles et qui ne veulent autre chose que de recevoir des sensations en allant écouter tel ou tel artiste, et ils se donnent à fond pour cela. J'aimerais que nos églises soient transformées en christothèques, mes amis. Alléluia. Qu'on puisse voir des personnes danser devant l'Éternel parce qu'elles sont folles d'amour pour leur roi. Chanter de tout leur cœur, de toute leur force, avec passion dans nos églises. Et je crois que de plus en plus, nos cultes vont ressembler à cela. Une église qui veut toucher de plus en plus le cœur de Dieu avec passion. Nous avons une génération qui danse, non pas pour créer une atmosphère, mais une génération qui croit en son Dieu, en son Créateur. Moi, je vois des jeunes dans cette église et je leur dis à ces jeunes, soyez passionnés par le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Que les gens puissent voir dans votre génération que vous n'aimez pas les choses qui sont frivoles, qui sont passagères, qui ne vont pas durer dans le temps. Mais Dieu est un Dieu créateur et il peut même vous donner de créer une nouvelle musique, de nouvelles danses, parce qu'il est le Dieu créateur. Et les gens du monde viendront vous dire, mais comment faites-vous? Comment avez-vous pu acquérir ce style, cette nouvelle chose qui sort de vos entrailles? Parce que nous avons un Dieu créateur qui nous remplit de sa présence et il est capable de créer de nouvelles musiques, de nouvelles formes de musique, de nouveaux rythmes, de nouvelles danses, de nouveaux arts. Moi, je pense à ceux qui peignent, à ceux qui sculptent, à ceux qui jouent de la musique. Quand l'Esprit de Dieu va nous saisir, l'onction va nous faire faire des choses que nous n'avions même pas imaginé savoir faire. Et si c'est ton cas, avant qu'on aille plus loin, eh bien, dans ce message, dis au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de revenir dans une relation passionnée avec toi. » J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu demandes ça à Dieu. « J'ai besoin de répondre à ton appel. » Et dans ma vie personnelle comme dans l'Église, j'ai oublié un cœur qui vibre. J'ai oublié ce que c'est. Je veux répondre à cet appel passionné en disant, « Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Trouve en moi un humain, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui te fait plaisir. » Parce que c'est le cœur de ma vie, le cœur de mon cœur qui te répond dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, transforme-nous afin que nous puissions voir les autres transformés. Il y avait un chant anglais qui disait ceci, « Move me, dear Lord ». Ça veut dire « Remue-moi, Seigneur, et je remuerai les autres ». Je serai capable de les remuer aussi parce qu'au fond de moi, il y aura quelque chose de précieux. L'Écriture nous dit que Jésus nous enseigne que Dieu est esprit. En vérité, avec un cœur vrai, authentique, en disant « Seigneur, je t'aime », ce n'est pas faussé quand on le dit. Alors, je voudrais aller plus loin avec vous ce matin. Ésaïe 29, 13 nous dit ceci. « Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, la justice comme un torrent. » Dieu leur dit, vous me faites des cérémonies, vous me faites des réunions, des assemblées, vous faites de belles pratiques, de beaux spectacles, mais je ne suis pas content de cela. Moi, ce que je veux, c'est votre cœur. Moi, ce que je veux, c'est la vérité, l'authenticité d'un cœur qui sait s'approcher de moi. Alors, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ne craignent pas de s'approcher de Dieu. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous dit que quelqu'un qui sait reconnaître ses torts aussi, c'est quelqu'un qui sait s'approcher de Dieu. Mais il y a une chose qui m'a touché ces dernières années, c'est quand j'adore Dieu en toutes circonstances. Est-ce que ça va pour chacun d'entre vous aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Tout va de travers. C'est bien, je suis content d'entendre cela. Qui a dit « ça va de travers » Merci pour ta spontanéité et pour la vérité de ton cœur. Voilà. Voilà, exactement. Ah, c'est bien. Bon. Elle a beaucoup compris de choses. Elle a compris beaucoup de choses. Hein. Comment? Non? Ah bon? Je ne te le fais pas dire, mon frère. Ok. Vous avez remarqué souvent quand les gens sont en pleine forme, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour Jésus. Ils sont prêts à louer, ils sont prêts. Mais dès qu'arrive quelque chose dans leur vie, ils ne veulent plus venir à la réunion, ils veulent rester chez eux, la Bible reste sur l'étagère ou sur la table de nuit, on ne vient plus dans la présence de Dieu pour lui apporter des parfums, pour prier, pour le louer, on abandonne la main de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est honoré quand on le loue et quand on l'adore en toutes circonstances. L'adorer dans l'adversité, c'est ce que l'Écriture peut appeler un sacrifice de louange. Et si je vous dis que Dieu cherche l'adoration, est-ce que vous me dites amen, oui ou non? Attention, je suis quelqu'un qui aime bien poser des pièges. Alors si je vous dis Dieu recherche l'adoration, est-ce que vous me dites oui ou non? Alors moi je dis non, je regrette mon frère. Dieu cherche des adorateurs et non pas l'adoration. Sinon je lui mettrais un CD, je lui dirais, écoute Seigneur, ça va te calmer, je comprends avec tout ce qui se passe sur la terre en ce moment. On va te faire de la musicothérapie, on va te passer le dernier CD sorti, et on a inventé ça nous les humains, on comprend quand on est Dieu, on a beaucoup de choses à contrôler, voir tout ce qui se passe. On va te faire de la musique, calme-toi, on assure sur la terre. C'est pas ce que le Seigneur nous demande, pas du tout. Dieu ne cherche pas l'adoration, il ne cherche pas juste la musique. Nous avons besoin de musique, c'est vrai, merci Seigneur pour cela. Mais ce que Dieu demande, c'est un cœur passionné pour lui qui sait l'adorer. David psalmodiait du pied droit, du pied gauche, la tête retournée, dans tous les sens, David psalmodiait et il louait Dieu avec tout son corps. Mais moi, quand j'ai regardé un petit peu dans le livre, dans le psautier, je me suis aperçu qu'on dit souvent, oui, David, c'était un adorateur, il savait jouer de la harpe, il savait jouer de la flûte, il savait danser. Voilà, c'était David. Oui, mais est-ce que vous avez vu David dans les moments difficiles? Parce que David était un guerrier. Et David a passé des moments excessivement difficiles. Un jour, devant la fuite, lorsqu'il était devant Absalom, son propre fils, et qu'il fuyait son fils qui voulait le détruire, Absalom le trahit, il se met sur un chemin, et il dit à tous ceux qui allaient voir David, « Non, n'allez pas le déranger, peut-être qu'il est trop vieux, mais moi je vais répondre à vos questions. » Et puis, il embobinait les gens pour les avoir à sa suite après, plus tard. Il est détourné de son propre père. C'était un homme qui trahissait son propre papa. Et David, lui, devant la fuite, devant son fils, il dira, « Eh bien, j'ai une idée, je vais composer un psaume. » Et ça, c'est David. Il écrira des psaumes alors que Absalom, son propre fils, le cherche pour le tuer. Vous ne trouvez pas ça fort, vous? Qu'auriez-vous fait, vous, à sa place? Et puis, un jour, il a fait le fou en présence d'Abimélec. Et celui-ci l'a chassé, il est chassé, il est rejeté, et plein de gens le rejetaient également, mais en tout temps, la louange de Dieu sera dans sa bouche. Lorsque Nathan vint à lui, le prophète Nathan, après que David soit allé vers Bathsheba et couché avec elle, non seulement il l'a mise enceinte, mais il a fait tuer son mari Uri. La Bible nous dit que Nathan est venu le voir et lui a raconté une histoire. L'histoire d'un homme qui avait une petite brebis, mais c'était tout son bonheur, cette brebis. Puis un riche qui en avait beaucoup, des dizaines et des dizaines. Et il y a un voyageur qui passe et qui va loger chez l'homme riche. Et au lieu d'apprêter l'une de ses brebis, il va voler celle de ce pauvre homme qui n'en avait qu'une pour l'apprêter pour le repas. Alors David, de dire à cet homme, c'est pas, il mérite la mort, cet homme c'est toi. C'est exactement ce que tu as fait en prenant la femme de ton prochain et en cachant ton péché. Et alors la Bible nous dit que dans le psaume 51, je vais faire un psaume. Et il va dire dans ce psaume, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit divin disposé. Ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut. » David chante devant l'Éternel tout en confessant ses péchés. C'est extraordinaire cette dimension, mes amis. On va aller plus loin. Lorsqu'il est devant les Philistins, qu'ils l'ont saisi, il est dans une caverne. Attendez, est-ce que vous auriez un crayon, une petite chandelle? Je vais écrire un psaume dans cette caverne. Et David est en train d'écrire un chant. Quelqu'un aurait une petite chandelle? Je vais le faire. Saül envoyait cerner sa maison, mais juste avant de mourir, un dernier petit psaume à faire, ça va vraiment faire du bien. Quand David touchait le cœur de Dieu, pas simplement par des psaumes, mais c'est que en tout temps, en toutes circonstances, il louait l'Éternel. Et mes amis, il y a quelque temps de cela en arrière, on a perdu plein de membres de notre famille. J'ai perdu mon papa, ma maman en l'espace d'un an et demi. Mathé a perdu son père l'année dernière. Puis on a perdu 8 membres de notre famille d'un seul coup en même pas 2 ans. Et puis devant tous ces cercueils, je disais, mais ça n'en finira jamais. Mais Dieu m'a appris une chose. Le psaume 34, verset 2, si vous pouvez le noter aujourd'hui. Le psaume 34, verset 2. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quel que soit ton état d'âme, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est toujours Dieu. Et tu es dans la main de Dieu comme l'argile est entre les mains du potier. Tu es dans sa main sûre. Nul ne te ravira de sa main, dit le Seigneur. Et si le vase que tu es a mal réussi, Dieu va le détruire pour en refaire un autre tel qu'il trouve bon de le faire. Mais toi, contente-toi de rester dans cette position, de louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, et que sa louange soit toujours dans ta bouche. Seigneur, je suis venu pour te louer. Seigneur, je commence ma journée en te louant. Seigneur, je commence telle ou telle chose, mais je te mets en avant. Seigneur, je glorifie ton nom, mais je sais que tu m'accompagneras dans ma démarche. Je sais que tu m'accompagneras dans ma journée. Et à la fin de la journée, je pourrais dire, Seigneur, je te loue car tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, dit le psaume 107, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. J'aimerais vous rappeler aussi, dans le livre des Actes au chapitre 16, il est question de deux hommes qui sont allés dans une ville, Paul et Silas, et qui ont évangélisé. Et à un moment donné, Paul en a eu marre, une femme était derrière eux pendant des heures et des heures et des jours, et elle disait, ce sont les fils du Très-Haut, ils annoncent la bonne nouvelle, etc. Et Paul, fatigué d'entendre cette femme hurler derrière lui pendant des heures et des heures, il se retourne et il dit à l'esprit qui l'anime, sors de cette femme. Et d'un seul coup, l'esprit sort. Et cette femme qui était quelqu'un qui devinait, qui était une diseuse de bonne aventure, ne pouvait plus rapporter d'argent à ses maîtres. Alors, ses maîtres se sont plaints en disant, mais notre source d'argent, elle est complètement dilapidée. Ces hommes nous font du mal. Ils ont été donc rués de coups, transportés, mis en prison, attachés par des ceps aux pieds. Mais la Bible nous dit, je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, on est là dans une prison, on était en train d'apporter l'évangile dans cette ville et regarde ce qui nous arrive. Pourquoi ça nous arrive-t-il? Mais non, au lieu de se plaindre, ils priaient et ils chantaient des cantiques. Les prisonniers les entendaient chanter les louanges à Dieu. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes qu'ils avaient aux mains et aux pieds sont tombées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Le geôlier allait se donner la mort. Seigneur, que faut-il que je fasse? Non, ne te donne pas la mort. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et la Bible nous dit que toute la famille a été sauvée. Ils ont tous été baptisés. Et c'est le geôlier de la prison qui soignait les plaies de Paul et de Silas. Dieu change toujours le mal en bien. Louez l'Éternel car il est bon et car sa miséricorde durera toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Dieu est touché quand tu le loues au milieu de l'adversité. Je ne sais pas si tu connais ce chant « Quel repos céleste ». It is well in my soul. C'est un monsieur qui s'appelle Horatio Spafford qui a composé ce chant. Mais vous allez écouter ce qui s'est passé dans sa vie. Je vous lis le récit qui est très court. Écoutez bien. En 1871, la ville de Chicago a complètement brûlé. Tout était à reconstruire et il s'y est donné avec beaucoup de peine. Son propre fils est mort et au bout de 2 ans, il était épuisé et très ami avec Moody l'évangéliste. Et là, il a dit à sa femme, on va faire une croisière. Et puis au dernier moment, il a dû rester. Sa femme est partie avec ses 4 filles en croisière. Et pendant la croisière, il a appris que le bateau où était sa femme avait coulé. Et il reçoit un télégramme de sa femme qui dit, je suis la seule survivante de la famille. Notre bateau a été attaqué. Il a coulé. Nos 4 filles sont mortes. Et à ce moment-là, lui veut venir sur place. Et il prend un bateau et il monte dans ce bateau-là et le capitaine lui dit au bout d'un moment du voyage, c'est là que le bateau a coulé, c'est là que vos 4 filles sont, et il rentre dans sa cabine et il prend des notes et c'est l'original de ce chant, It is well in my soul. Seigneur, même si au milieu de la douleur, même quand ces vagues qui sont dehors, ces vagues de tristesse coulent en moi, je veux te dire, tout va bien dans mon âme. Je t'aime et je sais qu'un jour, où même le ciel sera roulé comme un rouleau, le jour où la trompette va retentir, le Seigneur lui-même viendra et à ce moment-là, je te dirai, tout va bien dans mon âme est attachée à toi. Pouvoir faire un tel chant porte beaucoup, mes amis. J'aime beaucoup regarder le contexte dans lequel les chants ont été composés. Et souvent, ce sont des gens qui sont dans la détresse, mais qui disent, Seigneur, même si on devait me couper en 1000 morceaux, chaque morceau criera, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi. Et puis la dernière chose que je voudrais vous dire pour ce matin, c'est Dieu est honoré quand on le laisse nous transformer. Vous savez que quand on s'attache au Seigneur, il y a une transformation extraordinaire qui vient en nous. On a fait l'expérience ces derniers mois sur Paris, donc je ne mets pas la capitale en avant, hein, parce que ça se fait partout en France maintenant, et ça se fera de plus en plus, et je crois que ça va tous nous atteindre. On a eu cette... on a reçu cette pensée du Seigneur d'ouvrir un lieu de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis au début, on croyait que ça allait être une maison d'intercession simplement. Vous savez comment on l'a appelée cette maison ? On a mis deux églises ensemble, on travaille les deux églises ensemble, l'église de Belleville à Paris et l'église de Fontenay-sous-Bois, donc que le Seigneur nous a confiée. Et on s'est rassemblés autour d'un moment de Sainte-Seigne, on a dit on fait alliance ensemble et l'église de Belleville sera ouverte aux veilles de prière qui vont durer 2 heures chacune. Donc on s'inscrit à des veilles de prière et moi je suis l'un des responsables de veilles de prière. On a commencé ça donc à partir du début de cette année. Et puis, moi je suis venu, au début il n'y avait personne, vraiment personne. Et chaque veille de prière, c'est 2 heures à passer dans la présence de Dieu. Mais 2 heures, non pas à demander des choses à Dieu, 2 heures à lui offrir des parfums. On vient pour honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et lui dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi. Je veux élever ton nom. Je veux magnifier le nom puissant de l'Éternel. Et on est là pendant 2 heures entières, et les gens se disent, mais comment fait-on pour tenir 2 heures comme cela? Et c'est vrai qu'au début, ça a été un exercice assez périlleux, assez difficile. Mais mes amis, je me suis aperçu d'une chose, c'est que plus on entre dans la présence de Dieu, plus on est transformé par sa gloire. Plus on est changé par lui-même. Notre cœur se remplit de plus en plus d'amour. Il y a des temps de repentance, parce que quand on entre dans la présence de Dieu, automatiquement, lui grandit, mais nous nous diminuons. Mais nous diminuons à tel point que nous sentons le poids de notre péché, le poids de l'injustice, de tout ce qu'on peut vivre de mauvais. Vous vous rappelez quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu descendre dans le temple, Ésaïe 6, et lorsque les séraphins criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel les armées, toute la terre est remplie de sa gloire », vous vous rappelez qu'à un moment donné, il s'est mis à dire « Malheur à moi ! Je suis un homme pécheur dont les lèvres sont impures et j'appartiens à un cœur, un peuple tout entier dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Ça veut dire que je vais mourir. Mais l'un des séraphins vola, prit avec un tison une pierre à l'autel et toucha mes lèvres. Et il me dit, tu es pur maintenant parce que cela a touché tes lèvres. Et c'est là qu'Ésaïe a entendu la voix de Dieu lui dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et lui de répondre, me voici, envoie-moi. Et je crois que Dieu est en train de lever des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont passer du temps devant lui pour lui offrir des parfums, pour lui dire, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et vous savez, ce que l'on fait, c'est qu'on commence à jouer de la musique et on commence à chanter et l'Esprit de Dieu nous amène à chanter des choses qu'on n'avait même pas imaginé pouvoir chanter à ce moment-là. Dieu nous conduit dans quelque chose qui est prophétique, quelque chose qui est selon son cœur. Et on grandit, je ne dis pas qu'on est arrivé, pas du tout. On est en train de balbutier, mais on est en train de découvrir la profondeur du cœur de Dieu, l'immensité de son amour, la grandeur de sa présence. Et plus on avance avec lui, plus il est grand, mais plus nous sentons petits, fragiles devant lui. Merci Seigneur pour cela. Vous vous rappelez quand Jésus a posé cette question, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a dit, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Parce que tu sais qui je suis, je vais dire qui tu es, je vais transformer ton identité. Simon, tu seras appelé maintenant Pierre. Une identité transformée par la révélation de qui tu es en Christ. » C'est pourquoi ce ne sont pas simplement des chants que nous faisons monter vers le Seigneur, mais c'est un moment de rencontre dans lequel nous sommes transformé de gloire en gloire. Alors si tu rencontres le Dieu qui te guérit, Yahvé Rapha, tu vas expérimenter la plus belle visite médicale de ton année en étant dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais que ce matin nous puissions nous placer devant Dieu, dire Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin avec toi? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin dans ton intimité, dans ta présence? Je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes bien-aimés, je voudrais vous inviter simplement à aller plus loin avec lui et à lui dire, Seigneur, je veux être passionné par toi. Je veux être passionné par ta présence et je veux me consacrer à toi. Et je crois que l'une des armes que l'Église a oubliées, c'est celle de la, l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu, la prière, l'intercession, la louange, l'adoration. Quand tu te réveilles le matin, chante un chant au Seigneur. Commence ta journée en magnifiant le nom de Jésus. Commence ta journée en disant, Seigneur, c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et à la fin de la journée, tu pourras lui dire, Seigneur, merci pour ta fidélité, car cette journée a été couronnée de succès. Tu as été présent à mes côtés, mais tu m'as guidé vers de verts pâturages. Tu m'as guidé vers des eaux paisibles et tranquilles. Tu as restauré mon âme. Tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et Seigneur, ce que j'ai reçu de toi, je veux le communiquer à ceux qui m'entourent, parce que tu es grand et tu es digne de louange et d'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je louerai l'Éternel. En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel en tout temps. Je te louerai avec mon instrument. Je te louerai avec ma voix. Je te louerai avec mes mains. Je te louerai avec mes pieds, avec mon corps. Je veux danser pour toi. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit
Amen.
Amen. On va se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment bénir mes bien-aimés qui sont là, présents dans cette réunion ce matin. Te demander de toucher tous ceux qui sont en vacances, de les fortifier là où ils se trouvent, afin qu'à la rentrée, ils soient disposés à rechercher ta face. Mais pour nous qui sommes ici ce matin, Seigneur, tu nous invites à aller plus loin dans ta présence. Tu nous invites à goûter de ton intimité, Seigneur. Tu cherches des hommes et des femmes qui sont là, non pas pour eux-mêmes, non pas pour te demander, mais pour t'apporter. Seigneur, nos cœurs sont là et nous te prions de disposer nos cœurs afin que ces cœurs puissent s'épancher devant toi et te dire, Seigneur, tu es digne de recevoir tout mon amour. Tu es digne de recevoir ma reconnaissance. Tu es digne de recevoir le meilleur que contient mon cœur pour toi, s'il y a du meilleur dans mon cœur. Seigneur, apprends-moi à te louer, apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à psalmodier en ton nom. Seigneur, fais retentir des chants dans mon cœur, remplis mon cœur de chants nouveaux. Seigneur, je veux dire avec le psalmiste, je chanterai à l'Éternel un chant nouveau, un chant inspiré par toi, un chant que tu me communiques par le biais de ton Esprit Saint. Je chanterai des choses nouvelles pour toi, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Car tu es un grand Dieu, tu es un grand Dieu au-dessus des cieux. Seigneur, apprends-nous à te louer, apprends-nous à venir dans ta présence et que chaque jour nous allions plus loin dans la révélation de ta présence, dans la révélation de qui tu es. Seigneur, mon âme te loue ce matin avec mes bien-aimés et ensemble nous te disons merci parce que avant que nous ne soyons là, tu étais présent. Mais merci Seigneur de ce que, à la fin de ce culte, nous pouvons dire que nous t'avons rencontré. Mais Seigneur, nous pouvons aussi croire que toi, tu peux dire dans le ciel, j'ai rencontré des humains dans cette réunion qui m'ont dit, Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous environnes de ta présence et de ta grâce. Et mon cœur veut te dire, merci, un grand merci avec un M majuscule. Chaque lettre en majuscule en allant de plus en plus fort. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la force, la sagesse. Et tout ce que tu peux rajouter, tu en es digne, Seigneur, parce que c'est pour cela que tu es mort. Et reçois de la part de nous qui sommes des vivants maintenant pour toi, l'hommage de nos cœurs, la reconnaissance, la louange, la gloire, la passion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chère présidente.
Merci Alain, merci beaucoup. Et je prie vraiment que ces paroles soient scellées dans nos cœurs. Et qu'elle tombe dans la bonne terre, qu'aucun oiseau du ciel ne vienne les voler, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des annonces? Pas d'annonces. Donc, culte de... Oui,